Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous avez évidemment eu vent d'événements autrement plus graves que ceux qui nous agitent en ce moment, de ces événements qui ont eu lieu au cours de cette semaine. Je sortais de retraite hier, quand j'ai vu les drapeaux en berne, j'en ai demandé la raison, on m'a regardé en raillant, et en me disant qu'il s'agissait évidemment de ces attentats de cette semaine, etc. Vous êtes au courant de la marche pour la paix qui est organisée aujourd'hui. Il me semble donc important de méditer, plutôt que de méditer directement sur les mages et sur l'évangile d'aujourd'hui, de méditer un peu sur ce qu'on entend par la paix lorsqu'on est chrétien. Il y a de ces paix, et c'est celle, je crois, qu'on promeut cet après-midi, excluant toute une partie de la classe politique, bref, je passe, il y a de ces paix que les hommes se sont forgés au fil des siècles, et face à ces fausses paix, qui sont en fait des guerres larvées, il y a la paix unique, celle qui procède de Dieu. Je voudrais donc vous dire un mot de ces deux paix en les mettant tête bêche l'une contre l'autre, non pas pour qu'elles s'affrontent de façon débile, ce qui ne servirait à rien et serait stérile, mais pour que jaillisse la vérité quant à la seule vraie paix que l'on doit instaurer. Je prie donc, et vous allez prier avec moi j'espère, pour que nos gouvernants, nos journalistes comprennent que l'on n'obtient pas la paix à coup de provocation, et qu'il ne sert à rien de déplorer des victimes qui, je crois, pour une part, ont été l'auteur de leur propre assassinat. Voilà, je voudrais donc que nous prions, avant de vous dire quelques mots, pour, au cours de cette messe, en tout cas j'offre cette messe pour cette intention, en réparation pour les attentats qui ont été commis, en réparation pour les blasphèmes qui ont été à la source de ces attentats, et pour qu'enfin notre monde occidental comprenne qu'il fait fausse route. Voilà. Voilà, maintenant les choses sont dites et je peux vous parler de cette paix. Il n'y a en réalité de seule vraie paix que celle qui existe dans la Trinité de toute éternité, qu'on appelle pour cette raison la paix divine. Cette paix divine, comment procède-t-elle? Il s'agit tout simplement des trois personnes qui, dans un parfait oubli d'elles-mêmes, j'allais dire, dans une parfaite oblation d'elles-mêmes vis-à-vis des deux autres, communiquent ce qu'elles sont, c'est-à-dire la divinité, et se rétrocèdent cette divinité. Dans cette justice divine éternelle, qui rend à chacun son dû, c'est la définition de la justice, dans cette charité divine éternelle, qui cherche le bien de l'autre avant son bien propre, de cette justice et de cette charité naît la paix. La paix a comme condition préalable et la justice et la charité. Et Dieu, dans sa très grande magnanimité, a voulu faire participer nos premiers parents, Adam et Ève, de cette paix trinitaire dès cette terre. C'est ce à quoi ils ont goûté avant, malheureusement, de se reprendre par le péché que l'on sait, cette suffisance, cet orgueil, qui les a coupés de cette paix trinitaire. Alors, comme nostalgiques de cette paix qu'avaient goûté leurs lointains aïeux, tous les êtres humains qui se sont succédés à chaque époque ont forgé de toutes pièces des paix artificielles. Qu'on songe pour les anciens à la Pax Romana, la paix romaine que César Auguste a voulu instaurer, lorsque notre Seigneur est venu sur cette terre, que l'on songe pour les modernes à Kant et son incroyable projet de paix perpétuelle. Il faut quand même avoir un sacré toupet pour penser qu'en quelques pages on va résoudre ce problème de la guerre et accéder enfin à la paix. Je crois que ces deux bons hommes auraient mieux fait de réfléchir un peu, pour l'un César Auguste, à ce qui se passait pendant son règne, alors qu'il entendait instaurer la paix universelle dans une province crottée de son empire, c'est-à-dire dans cette grotte de Bethléem, une certaine nuit. Et pour Kant, je pense qu'il aurait mieux valu pour lui méditer un peu sur son propre prénom, Emmanuel. Les deux auraient donc compris que la clé du succès, la clé de la paix, ne se trouvait qu'en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette paix que la Trinité avait jadis confiée à nos parents, que finalement nous avions écartée, à cause de ce péché, de ce recroque-viment sur soi, de cette suffisance qui advient non seulement en Adam et Ève, mais en chaque génération qui se succède, voilà que, dans sa mystérieuse bonté, Dieu nous la communique de nouveau en la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est la bouche du Père, la bouche de la Trinité, qui vient nous enseigner qu'il n'y a pas d'autre paix que cette paix divine, qui n'est pas quelque chose qu'on se forge avec nos petits poignets humains et avec nos bonnes intentions larmoyantes, comme on tente de le faire cet après-midi, et déjà depuis quelques jours. La paix, la seule vraie paix, est la paix divine qui nous est donnée et dont nous sommes, disons, dont nous sommes les dépositaires, dont nous devons être les gardiens délicats. Souvenez-vous des paroles de Jésus à la fin de sa vie, je pense à ce qu'il disait dans la pénombre du Cénacle, le soir du dernier repas avec ses apôtres, « Je vous donne ma paix ». C'est ma paix que je vous donne, et non pas la paix du monde. Je ne vous donne pas cette paix comme le monde vous la donne. Et quelques jours plus tard, le jour de Pâques, par deux fois, entrant dans le cénacle clos par peur des Juifs, que dit-il à ses apôtres, après avoir passé les murailles? Il dit à ses apôtres, paix à vous, par deux fois. Comme pour signifier qu'il est toujours prêt à redonner cette paix divine, cette paix trinitaire à ses créatures. Jésus ne se contente pas d'enseigner que la paix est un don du ciel, qu'il faut recevoir de façon humble, comme une créature que nous sommes, mais en même temps, il offre cette paix, parce qu'il conquiert cette paix. Comment ? Par son souverain sacrifice de la croix, évidemment. C'est ce que nous apprend saint Paul dans je ne sais plus quel épître, où il dit que Jésus a tué la haine par son sacrifice. Autrement dit, puisque l'opposé de la haine est la paix, Jésus a restauré la paix par son sacrifice. Mais le Seigneur Jésus ne s'en tient pas là. Il ne veut pas être le seul auteur de la paix, il veut que nous devions coopérateurs de la paix. C'est là où je voulais en venir depuis le début, et c'est cette coopération à la paix que je voudrais opposer à toutes ces manigances actuelles où l'on, encore une fois, on défile en larmoyant et en appelant de tous ses bons voeux. Évidemment, tout le monde est d'accord avec cette revendication que la paix advienne, mais on ne fait rien pour que la situation change. Cette situation de coopérateur de la paix, d'acteur de la paix, que Jésus veut pour nous, il la signifie très clairement dès le début de sa vie publique dans le sermon sur la montagne. Lorsqu'il dit à ses apôtres, dans les béatitudes qu'il énumère au début de l'évangile de saint Matthieu, cela nous est relaté, « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Autrement dit, on ne peut être vrai fils de Dieu, on ne peut être chrétien authentique que si l'on est véritablement artisan de paix. Si vous voulez, il est trop facile de se dire que, par opposition à ce gouvernement, à cette classe médiatique qui essaye toutes sortes de bricolages pour instaurer la paix, il serait trop facile de se dire « attendons donc, prions et attendons que la paix advienne du ciel ». Non, le Seigneur Jésus nous dit « oui, premièrement, la paix vient de la Trinité, ce n'est pas vous qui la fabriquerez. En revanche, vous devez en être les coopérateurs et les coopérateurs actifs, les artisans ». Il ne dit pas les consommateurs de la paix trinitaire, il dit les artisans de cette paix trinitaire. Voyez ce privilège insigne que Jésus-Christ fait à ses apôtres, c'est-à-dire à chacun d'entre nous qui sommes baptisés et qui sommes là aujourd'hui. Nous avons un privilège en même temps que nous avons un devoir par rapport aux païens qui nous entourent ou à ceux qui n'appartiennent pas à la vraie religion, c'est-à-dire la religion chrétienne. Nous avons ce privilège de pouvoir, en vertu de notre baptême, de notre confirmation et pour ma part du sacrement de l'ordre que j'ai reçu, pour ceux d'entre vous qui êtes mariés en vertu du sacrement de mariage, nous avons la capacité d'être des canaux, des artisans effectifs de paix. Autrement dit, la paix sur cette terre n'adviendra que si vous et moi, mes frères, qui sommes chrétiens et qui avons cette capacité inscrite en nous profondément, que les autres n'ont pas, de promouvoir la paix. Très concrètement. Alors me direz-vous, comment promouvoir la paix? Nous voulons bien être coopérateurs de la paix, acteurs de la paix, mais comment faire? Si ce n'est pas par des slogans et des manifestations, comment devons-nous procéder? Eh bien, je crois que nous avons un exemple souverain chez nos frères bénédictins. Vous connaissez le mot-clé des bénédictins qui est sur le fronton de leur monastère, Pax. Et vous connaissez également leur devise, qui est en réalité, si j'ose dire, le plan de bataille pour obtenir cette paix divine, pour être coopérateur de la paix divine. Ora et labora. Il faut prier et travailler. On commence par prier et ensuite on œuvre. Est-il un moment de l'année liturgique où il nous est offert plus intensément que pendant cette période de Noël et de l'Épiphanie de méditer? Donc de méditer sur la paix divine devant la crèche Nous avons la Sainte Famille qui est le reflet, qui est l'icône terrestre de la Trinité. Elles sont trois personnes dans la famille divine, comme il y a trois personnes en Dieu. Et ce qui joint les deux, c'est qu'il y a une personne commune à la Trinité et à la Sainte Famille. Elles sont un reflet. Cette Sainte Famille est un reflet de la Sainte Trinité. Vit dans la Sainte Famille la paix trinitaire, comme par communication. Nous avons un enfant Jésus, c'est-à-dire un être sans défense, que les Écritures saluent comme étant le prince de la paix, c'est-à-dire pour instaurer la paix, il faut accepter d'être comme un nourrisson, sans défense. Il ne s'agit pas de cette devise que parfois il est bon quand même de reprendre, mais pas premièrement pour nous chrétiens, si vis pacem. Parabellum, nous ne sommes pas là d'abord pour appeler à la guerre en vue de la paix. Nous sommes chrétiens et nous devons premièrement, c'est exigeant, c'est crucifiant, nous sommes là pour nous configurer parfaitement à l'enfant Jésus sans défense. J'ai rencontré, je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines, nos frères d'Irak. Nos frères d'Irak, dont on peut rire aujourd'hui en se disant qu'ils font les frais de leur passivité de ces dernières décennies, voire de ces derniers siècles, nos frères d'Irak se sont offerts en martyrs, tout simplement, c'est-à-dire sans défense devant ceux qui sont venus attenter à leur vie parce qu'ils étaient chrétiens. Ils offrent un modèle, et je les rencontre encore cet après-midi, j'en suis très heureux, et je les confie à vos prières parce que les choses ne sont pas faciles pour eux en France aujourd'hui, où ils sont totalement déracinés, et dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, il faut bien le dire, à la différence d'autres. Ces frères d'Irak ont accepté de se configurer à Jésus sans défense, et ils sont, c'est certain, parce que le Seigneur l'a promis, parce qu'il est le prince de la paix, et qu'il a promis que les artisans de paix qui feraient comme lui seraient féconds, ils sont féconds, nos frères d'Irak, même si aujourd'hui nous n'en avons pas l'impression. Ce sont donc nos modèles, et je pense que pour terminer ce temps de Noël, au cours des quelques jours qui nous restent encore avec cette crèche jusqu'au 2 février, en place dans nos maisons et dans cette église, peut-être pourrions-nous, pour qu'enfin cette paix divine advienne sur terre, cette paix dont nous savons qu'elle n'est malheureusement qu'une sorte de petite flamme vacillante. Il suffit de regarder le sort de la Sainte Famille dans les premières semaines de la vie de notre Seigneur. Il faut partir de droite et de gauche, quitter sa terre, aller ailleurs parce qu'on est persécuté. Que voulez-vous, c'est ainsi. Mais si nous voulons quand même qu'un embryon de paix divine plus puissant que ce qu'il est aujourd'hui, notamment en France, s'instaure, et dans les pays où le sang coule à flot, aujourd'hui même, eh bien, il faut, je crois, méditer davantage sur cette figure du prince de la paix, sur cette sainte famille, pour y cueillir la seule paix qui soit durable, la seule paix profonde, la paix de la Sainte Trinité. Voilà la grâce que je nous demande, que nous puissions véritablement devenir des artisans de paix. Ne nous défaussons pas, n'attendons pas tout du ciel, ni non plus du gouvernement, mais ça je parle à des convaincus, n'attendons pas tout du ciel, soyons véritables coopérateurs de la paix. Comment ? En puisant davantage au sacrement, en méditant sur cette figure du prince de la paix, en mangeant, mastiquant la parole de Dieu, qui est la parole du prince de la paix, ainsi véritablement, nous serons le levain dans la pâte que le Seigneur attend pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.